Tomley, bonjour. Donc vous êtes à l'affiche de Pourri Gâté qui sort le 15 septembre et vous interprétez Juan Carlos. On pourrait dire que c'est un rôle qui aurait plu au jeune Bebel, non?
Bah vous voyez, c'est la première fois depuis la disparition d'un tel mythe que quelqu'un en parle. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir et encore plus d'être associé à lui pour un rôle. Est-ce que Bebel aurait pu faire Juan Carlos? Je sais pas. Bebel avait, je trouve, plus de. Il était plus cascadeur et Juan Carlos n'a pas l'air d'un cascadeur. C'est un personnage quand même assez. Qui joue plus de son charme que de. Que
oui, il y a certaines scènes du Guignolo, vous seriez pas mal.
Oui, oui, quelques-unes. Oui. Bon, alors, si vous et moi, aujourd'hui, ensemble, on peut se faire rêver en disant que Bebel aurait pu faire ce rôle, alors allons-y, disons-le.
Alors, Nicolas Cuche me disait récemment qu'il vous avait donné carte blanche pour interpréter ce personnage. Comment l'avez-vous imaginé et que lui avez-vous proposé, finalement?
Alors, carte blanche, oui, c'est vrai. Il m'a dit, amuse-toi, mais on a trouvé le fond du personnage ensemble, en fait. Je me suis amusé dans la comédie du personnage, dans l'accent, dans comment le trimballer, mais vraiment en fait, je tenais vraiment à ce que ce personnage ait quand même un peu de comédie, puisque j'avais peur du personnage qu'on a du mal à aimer, en fait. Et lui et moi, Nicolas et moi, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait que ce soit un personnage que finalement on trouve le moyen d'apprécier. Ouais, c'est difficile, c'est assez périlleux avec ce genre de rôle, mais je pense qu'on s'en est sorti quand même.
Alors, il paraît que déjà à 16 ans, vous adoriez interpréter plusieurs personnages, monter sur scène, etc. Vous êtes un extraverti ou forcier?
Non, je suis assez extraverti, je dois dire. J'ai toujours aimé me montrer sur scène. Déjà à 16 ans, j'écrivais des sketchs, je montais sur scène dans mon école. J'ai toujours aimé ça, ça ne m'a jamais gêné. Se donner en spectacle, c'est de là que vient l'expression. Mais ouais, c'est vrai que dès que j'ai des gens qui sont un peu clients de mes conneries, j'ai tendance à surenchérir. Ouais.
Le trac, vous connaissez?
Bien sûr.
Ouais. Malgré tout.
J'avais le trac avant cette interview. Oh. Oui, on a toujours le trac, je pense, en tant qu'artiste, puisque on se met à nu et puis les gens viennent voir de très près ce qu'on leur propose. Donc il y aura, quoi qu'il arrive, du jugement, ou si c'est pas du jugement, il y aura un ressenti de la part du public. Et je pense que quand on est artiste, on a toujours peur de ça. Même un artiste peintre, il a le trac avant son exposition.
Alors, artiste complet, vous avez une belle formation new-yorkaise, 5 ans. Vous êtes parti quoi, vers 18-19 ans?
Oui, 18 ans.
Hein? Alors, vous étiez un élève studieux ou vous avez parti là en déconnant?
Ben, je suis un élève studieux quand je suis passionné. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais vraiment un cancre, un très mauvais élève. Et quand je me suis rapproché du métier d'acteur et que j'ai appris le métier d'acteur, ben là j'étais bon élève, là j'avais envie de réussir, j'avais envie de bien faire, j'avais envie d'impressionner mes professeurs, j'avais envie d'avoir la bonne note, et c'était une façon aussi de me rassurer, en fait, je pense.
Alors, pas mal de bonnes écoles, New York Film Academy, le William Esper Studio, où vous avez découvert la méthode Mesmer. Par rapport à la méthode Stanislavski, c'est rival à l'Actor Studio et à Lee Strasberg ou complémentaire?
La méthode, je vais préciser, c'est la méthode Meisner et non pas Mesmer comme beaucoup pensent. Méthode Meisner, qui est une dérivée de l'Actor Studio mais qui n'est pas tout à fait la même. C'est une méthode basée sur l'imaginaire, sur les circonstances imaginaires, alors que l'Actor Studio est une méthode basée sur les faits réels, c'est-à-dire aller puiser le mal en nous, le bien en nous, à la place de le construire et de l'imaginer et de le créer.
Et vous a servi par après, fatalement. Vous continuez à avoir une formation, à lire ou à,
bien sûr.
Ou à vous, continuer à vous former?
Je vais vous dire aussi, je me forme, en dehors d'aller dans des classes ou quoi que ce soit, je me forme en regardant les autres. Je pense que c'est la meilleure école. Une fois qu'on est sur le terrain, on regarde les autres acteurs. J'ai appris, même en un instant, en un court instant, on va choper ça chez l'un, choper ça chez l'autre, avoir cette clé, choper cette clé chez l'un, chez l'autre. J'ai chopé des choses. En fait, on ne fait que ça. Nous, on se nourrit des autres acteurs. On, on construit notre propre panel en allant prendre les couleurs des autres, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Je trouve que c'est là où que j'ai le plus appris, c'est en étant sur le terrain. C'est pas à l'école. À l'école, on essaie de bien faire, alors que sur le terrain, il faut bien faire. Donc quand il faut bien faire, on regarde, on copie, on prend ça chez l'un, ça chez l'autre, et puis ça, on se construit petit à petit.
Vous êtes formé aussi à la comédie musicale, donc je suppose que Fred Astaire, Gene Kelly ou Jacques Demy ou La La Land, ça vous parle, non ?
Bien sûr, ça me parle, évidemment.
Et vous savez que ce n'est pas évident chez nous en France, en Belgique, d'avoir ce type de cinéma à regret, je suppose. Non,
c'est-à-dire que c'est une culture très particulière et que je trouve est très propre aux Américains ou aux Anglais. Mais pourquoi j'ai étudié la comédie musicale ? Parce que je voulais tout étudier. J'étais autant passionné par le métier d'acteur que par la musique, même la danse. Je voyais les mecs danser, je disais, mais pourquoi j'apprendrais pas à utiliser mon corps comme ça aussi ? Mais par contre, je savais que la comédie musicale, c'est pas quelque chose qui me correspondrait. C'est quelque chose que je ne sais pas encore défendre, je me sens pas capable de défendre vraiment. Mais par contre, séparer la danse du métier d'acteur et du chant, c'est ce que je fais, donc c'est pas incompatible. Je suis chanteur et acteur, mais de mettre tout dans la même pièce de théâtre et se mettre à chanter pour expliquer qu'on est allé chez notre voisine hier soir, je sais pas, j'y crois pas encore.
Alors un film que j'ai adoré dans votre filmo, c'est Edmond, qui est sorti en janvier 2019.
Merci.
Beau souvenir, non ?
Magnifique souvenir, magnifique expérience, film d'époque à Prague. Donc on voyage dans les deux sens du terme, autant pour le tourner que pour le raconter. C'est une très belle œuvre d'Alexis Michalik, autant au théâtre qu'au cinéma. Très réussi. C'est un chef
d'orchestre.
Il
fallait oser pour moi, pour faire un film quand même.
Oui, mais il ose tout, Alexis Michalik. C'est un chef d'orchestre extraordinaire, qui est culotté, qui s'en fout de qu'on puisse penser qu'il fait les choses pas bien. Il y va, et puis il fait les choses bien. Au final, ça marche tout le temps. Ce que fait Alexis, ça marche tout le temps. Et c'est une merveilleuse expérience, parce que j'ai été mis en scène par un réalisateur qui croit tellement en ce qu'il fait, qui croit tellement en ce que ça va devenir, qui vous transmet un petit peu cette molécule de l'euphorie, de la confiance, et que petit à petit, on démarre en se demandant, mais qu'est-ce qu'il est sûr ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il fait très peu de prises. Une prise, deux prises, c'est tout. On avance, il sait ce qu'il fait. Les journées, elles devaient se finir à 18h, à 15h, c'est fini. Mais et au final, on se rend compte que c'est juste un mec qui sait exactement ce qu'il veut. Et qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise merde, quoi. Il y va.
Un souvenir avec Olivier Gourmet ?
Ah oui, alors avec Olivier Gourmet. Alors, Olivier Gourmet, voilà un des gars de qui j'ai puisé un petit peu beaucoup des choses.
Source, hein.
C'est une source énorme. Ouais. Il suffit de le regarder jouer, de le regarder écouter. Il essaye pas, ce mec. Il essaye rien. Il essaye pas. Ça, c'est naturel, c'est inné. Et alors avec lui, un souvenir que j'ai avec lui, j'avais démarré ce jeu des interviews pourries, un peu dans la veine Raphaël Mesrailles. Et avec lui, entre chaque prise, dès qu'on avait un quart d'heure, je me mettais à lui faire des fausses interviews pourries. Et il était très client de ça. Il était très client de cette connerie, de ce qu'on avait inventé. Et à chaque fois que je m'approchais de lui, je lui posais des questions sans intérêt, auxquelles il répondait très sérieusement. Et hop, on devait retourner, on allait tourner. Puis dès que le plan était coupé, je m'approchais de lui avec mon faux micro. J'avais pris une espèce de fougère pour faire un micro. Il me voyait arriver, il commençait déjà à se taper des barres de rire. Et je m'approchais de lui, je faisais des interviews pourries. J'appelais ça des interviews pourries. Voilà.
Alors, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Qui dit Cyrano de Bergerac dit Roxane.
Ouais.
Et si je dis Roxane.
Christian.
Je ne sais pas, non, c'est peut-être le début d'un concert au summum à Grenoble, 5000 personnes, c'est Sting, et en première partie, c'est qui ?
C'est moi. jolie, très belle transition.
Hein.
Je ne peux pas vous permettre de dire sans transition, parce que cette transition, elle est sublime. Roxane, bien sûr, alors ça, en termes d'expérience de jeune musicien, ça aussi, c'était quelque chose de très, très, très intense. Arrivé sur cette magnifique salle du Forum du Summum, pardon. Summum à Grenoble et le Palais Nicaria à Nice. C'est une expérience folle. On a peur de ne pas être accueilli, on a peur de ne pas être à sa place, on a peur d'en faire trop ou pas assez, on a peur de décevoir ceux qui veulent le voir directement. Mais on est seul avec sa guitare, quoi.
Et 5 000 personnes devant.
Ouais, 11 même. Palais Nicaïa, Nice, ouais, 10 000 personnes. Donc on est seul, il y a une guitare, un micro et un spotlight. Et voilà, là pour le coup c'est pareil, c'est la mise à nu. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'éléments extérieurs, il n'y a que ça.
Alors ce soir-là, il ne savait pas jouer de la guitare, Sting, parce qu'il
Oui,
était bras en écharpe.
bon, on est sûr.
On n'avait pas envie à ce moment-là de prendre votre guitare et d'aller à côté l'accompagner.
J'aurais jamais eu ce culot. J'aurais jamais eu ce culot parce que déjà Sting m'a écouté pendant ma première partie et il est venu me voir à la fin de ma première partie. Puis il m'a dit, tu sais ce que tu fais. C'était pas une question, c'était une affirmation. Il m'a dit, tu sais ce que tu fais, t'es à ta place et tu le fais bien. Et ça m'a suffi. J'avais pas du tout envie d'aller brancher ma guitare pour faire un solo en plein milieu de. Parce que déjà il a des très bons musiciens et puis parce que c'était pas l'esprit. C'était pas ce qui. J'avais fait ce que j'avais à faire et puis il fallait que je sorte de scène. Enfin, c'est tout. Et laisser la place aux grands.
On va revenir sur Pouigaté, générique. Vous aviez Camilou, qui joue votre fiancée, et que justement en chanson vous avez retrouvé pendant le
Bien
confinement
sûr.
avec votre duo de John Mayer. C'était fait naturellement ou
Ouais, non, dans aucun but particulier, ouais, très naturellement. Elle chante merveilleusement bien, cette fille. Et on a gardé contact après le film, évidemment. On a toujours été très proches. Et je lui ai dit, mais viens, on s'amuse, on met ça sur les réseaux sociaux, on partage avec les gens notre passion pour John Mayer et notre passion pour la musique. Ok, puis on a fait cette reprise, voilà,
C'est beau,
qui a bien marché. Voilà, c'est simplement du partage, ça. Aucune prétention, aucun but. Le seul, c'est de partager, quoi.
Camille Lou, vous avez retrouvé avec les combattantes aussi, qu'on verra le 31 décembre.
Ah, vous savez ça? Il y a une date de sortie déjà?
Une série, donc 1914, vous parliez d'époque, là aussi, vous êtes plongé
Ouais.
dans le passé.
Bah là, c'est une reconstitution de la Première Guerre mondiale, où j'interprète un médecin-major qui récupère les blessés du front. Enfin, les blessés du front, pas les blessés au front. Hein. Enfin, quoique, il y en a des blessés bien plus graves qu'au front. Donc voilà, donc on est plongé au cœur de cette tragédie, ce drame. Dans lequel il y a des couverts aussi, des couverts en argent, on peut l'entendre. Non, voilà, donc c'est un drame très très bien fait par Alexandre Laurent, et produit aussi pour Netflix. Donc voilà, c'est une très belle reconstitution.
Avec Julie Dubonnat, que vous aviez déjà croisé sur Plan B.
Ouais, que j'ai rencontré sur Plan B, ouais. C'était une belle aventure, ça aussi, tournage à Marseille. C'était agréable de jouer avec Julie parce qu'elle était dans un rôle tellement dramatique que les seuls échappatoires qu'elle avait dans son rôle, c'était les instants avec mon personnage, qui étaient des personnages qui lui apportaient un peu de lumière, qui lui apportaient un peu de réconfort. Donc j'avais le beau rôle en fait. Pardon, j'avais le beau rôle, oui, parce que j'étais celui qui amenait un petit peu le soleil dans sa vie, quoi. Donc c'était toujours des scènes très sympas à tourner.
Cinéma, mais de l'autre côté de la barrière, vous avez réalisé Décor, un
Oui.
court qui a été présenté au Nikon Film Festival. Et là, vous avez embarqué toute votre famille, votre sœur Elsa, votre maman Béatrice et une certaine Constance Labbé, je crois. Donc, c'était bien, vous étiez en famille.
Oui, bah déjà merci de parler de ce film. J'étais franchement tellement ravi de réaliser pour la deuxième fois de ma vie. J'aime tellement ça, réaliser des films. Je pense que l'épanouissement total dans ma vie, ce sera le jour où j'aurai réalisé mon film ou une série ou que sais-je. Mais voilà, oui, et puis travailler en famille, c'est toujours conseillé. Il y en a qui le déconseillent, moi je pense que c'est conseillé puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et dans la famille, on se retrouve finalement. Donc ouais, Décor a été une très très belle expérience.
Et c'est vrai que cette ambiance de plateau, ça m'a fait penser un peu à Nuit américaine ou Belle époque.
La belle époque,
Ouais,
le film de Bedos.
de Bedos.
Ah ben, ça me touche beaucoup, ouais.
Cette
Ouais, la nuit
reconstitution,
américaine aussi, belle référence,
ça
Truffaut.
Ah ouais, non,
Ouais,
mais...
ce sont des références qui me flattent beaucoup. Ouais, bah, c'est ça, j'avais envie de filmer l'ambiance d'un plateau. C'est un film, bon, c'est un court-métrage boutique, hein, très, qui raconte ce que les gens parfois ne veulent pas voir, ne veulent pas découvrir. C'est les décors, un peu le point de vue du magicien vu derrière son épaule. Donc c'est dommage. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très esthétique. Et de très beau sur un plateau de cinéma. Donc j'avais envie de le filmer. Voilà, il y a des nuances, de lumière, il y a tous ces pieds de mille, je veux dire tout le matériel dans le fond. Voilà, ça donne un espèce d'univers et une peinture que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Donc j'avais envie de la
Qui
filmer.
fascine quand
Et qui
même,
fascine.
ouais.
Ouais. Mais pas toujours, j'ai l'impression, parce que les gens, quand il y a des films sur le cinéma, les gens ne courent pas. Parce qu'ils se disent, moi, je veux le cinéma me fait rêver, j'ai pas envie qu'on me révèle comment ça fonctionne. Certaines personnes sont comme ça. Mais en tout cas, ce film a eu sa petite histoire, son petit succès.
Belle ambiguïté, vrai, faux. C'est
Exact.
vrai que c'est.
Ben, c'est parce que c'est propre à. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est un film qui s'appelle Décor et qui est écrit en deux
En
mots.
deux mots.
Ouais. Et qui mélange justement ces deux corps dans une histoire d'amour, mais qui se poursuit peut-être ou pas en dehors du plateau.
Ça sera la
Puisque.
suite sur
Ce
le long
sera
quoi.
éventuellement la suite sur un long métrage, mais voilà, ils jouent une histoire d'amour et quelle est la barrière en fait entre la fiction et la réalité? Quel est le jusqu'où on peut aller en fait?
Thomas, un grand merci. On rappelle, Pour y gâter sort le 15 septembre. Et alors, si on veut en savoir davantage sur vous, le 20 octobre, c'est 8 rue de l'Humanité
Ouais,
avec Damien
Daniel,
Boehm.
le film de Daniel.
Merci, Thomas.
Merci à vous, merci beaucoup.